Où faut-il chercher la clé de cet assassinat? Affaire de gros sous, racket, définitif règlement de compte pas très clair, affaire personnelle ou vengeance? Gérard Lebovici a-t-il été victime de gens avec qui il était en compte? En tout cas, il a été littéralement exécuté de 4 balles dans la nuque, curieusement positionné en une sorte de carré mortel.
Bonsoir, le cinéma le surnommait le roi Lebo. Gérard Lebovici, inconnu du grand public, même si en ces années 80, il était l'homme qui régnait sur le film français, producteur puissant, respecté, agent des plus grandes stars, de Jean-Paul Belmondo à Catherine Deneuve. Un personnage qui restait dans la coulisse, dans la pénombre, et c'est dans l'obscurité d'un parking parisien qu'il a été abattu à la fin de l'hiver 1984. Une exécution qui a alors toutes les allures d'un contrat portant la signature du milieu. 37 ans après, cette mort violente demeure une énigme. On ne sait toujours pas qui a abrégé la vie de Gérard Lebovici. Les pistes se sont pourtant multipliées, celles de la pègre, d'un différend financier, d'une vengeance amoureuse. Même l'ombre de Jacques Mesrine est apparue. C'est cette histoire, la mort ténébreuse du roi des producteurs Gérard Lebovici, que nous allons raconter ce soir. Avec nos invités, nous allons essayer de comprendre pourquoi un voile de silence s'est si rapidement abattu sur cette enquête. Une mort dont la clé se cache forcément dans la vie secrète d'un homme qui avait rendez-vous avec son tueur.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'assassinat de Gérard Lebovici en 1984 à Paris. Le producteur français est un homme convoité et sollicité. Un seul coup de fil va pourtant suffire à le faire disparaître. Ce lundi 5 mars 1984 s'annonce comme une nouvelle longue journée pour Gérard Lebovici. Vers 8h30, il a rejoint son bureau au numéro 11 bis de la rue Kepler, non loin de l'Arc de Triomphe. C'est le siège de la société AAA, acteur, auteur, associé, société qui s'occupe de production et de distribution de films. Une entité de la nébuleuse Lebovici, avec l'agence Armédia qui gère les carrières de dizaines d'actrices et acteurs, ou encore les éditions Champs Libres. Lebovici enchaîne les rendez-vous. À 13h, il déjeune avec Serge Siritsky, exploitant de salle. Comme à son habitude, Lebovici est peu bavard, presque taciturne. Mais c'est ainsi que se présente presque toujours le producteur. Après-midi de travail jusqu'à 17h30, où un homme qui refuse de donner son nom appelle directement son secrétariat. Régine Cordelier, l'assistante de Lebovici, ne donne pas suite. L'inconnu insiste, rappelle 3 fois et finit par dire « Dites simplement que c'est de la part de Sabrina ». La seule évocation de ce prénom fait réagir Lebovici. Il ne connaît qu'une seule Sabrina, c'est Sabrina Mesrine, qu'il a pris sous son aile depuis la mort de son père 5 ans auparavant. Il prend alors l'interlocuteur en ligne. On l'entend dire « Si cela peut vous soulager, je suis prêt à continuer cette conversation avec vous ». Le producteur quitte son bureau, fait annuler son prochain rendez-vous, prévient son épouse Floriana qu'il sera en retard pour le dîner. Alors qu'il n'aime pas conduire, il donne congé à son chauffeur, prend lui-même le volant de la Renault 30 TX de fonction et disparaît dans la circulation. Les heures passent et aucun signe de Gérard Lebovici. Son épouse Floriana et ses invités au dîner du soir, parmi lesquels l'actrice Marie Dubois, sont surpris puis inquiets. Floriana Lebovici finit par appeler le commissariat, les hôpitaux, en vain. 2 jours vont ainsi s'écouler sans aucune nouvelle. Le mercredi 7 mars, peu avant 4h du matin, le gardien du parking et Bowling Foch, avenue Foch, dans le 16e arrondissement, est intrigué par une Renault 30 TX mal stationnée. À bord, un homme semble dormir sur le volant, mais son imperméable clair est taché de sang. La police va compter 4 balles de 22 longs rifles tirés dans la nuque. 3 douilles sont retrouvées sur la moquette du véhicule, une 4e bien droite sur la plage arrière. Dans le grand banditisme, c'est la signature d'un contrat. Un témoin se souviendra avoir vu entrer dans le parking le lundi la voiture avec 3 hommes à bord. La victime a de l'argent sur elle, seuls ses papiers ont été dérobés. Il s'agit bien de Gérard Lebovici, 51 ans. Bonsoir Jérôme Pierra.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialiste du grand banditisme. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime et d'être ce soir avec nous dans ce studio. On va évidemment s'intéresser à Gérard Lebovici. C'est notre fil rouge ce soir, victime et acteur principal dans cette heure du crime. Essayer de comprendre pourquoi il a été tué, j'allais dire, d'une façon aussi radical. Jérôme Pierra, que dit cette scène de crime quand les policiers débarquent? Ils pensent quoi? Ils voient quoi?
Ah bah, il voit un homme affalé sur son volant. Il pense surtout que le tireur était évidemment dans la voiture. Qu'il a dû juste tendre le bras, soit il était couché, soit il s'est redressé, mais enfin s'il est rentré...
Il pouvait être derrière lui.
Il était juste derrière lui, visiblement, puisqu'il est, il est tué de 4 balles dans la nuque, vous l'avez dit, comme dans une carte à jouer. Il y a déjà des indices, parce que, effectivement, de laisser les douilles, d'en mettre une comme ça, une espèce de mise en scène, on lui a pris ses papiers, pas son argent, comme si on voulait montrer aux commanditaires éventuels de cet assassinat, qu'on avait bien touché la bonne cible, etc., etc. Donc, effectivement, les policiers se disent, c'est un contrat.
C'est un contrat. Évidemment, c'est un assassinat, c'est un contrat. Un petit mot sur la douille. Vous dites, c'est une mise en scène, mais c'est habituel, ça, dans le milieu, qu'on dépose comme ça.
Non, quand on tue des gens. Les voyous, quand généralement, ils s'entretuent entre eux.
En général, c'est comme ça que ça se passe.
Voilà.
C'est vrai.
Et donc, généralement, ils ne font pas de mise en scène. Hein. Ils arrivent, ils s'approchent en moto, ils vous mettent 10 balles de 11.43 dans le corps, et puis ça se termine comme ça. Là, effectivement, c'est très, très étonnant que l'assassin ait pris le temps de dresser cette douille sur la plage arrière, etc. Enfin, ça ne s'est jamais très expliqué. Ça n'est pas très courant, pour tout vous dire, évidemment.
Non, mais c'est important de le dire.
C'est pas un signe habituel laissé par les gens du milieu. En France, en plus, on n'a pas tellement cette tradition, si j'ose dire, du tueur à gages.
Oui, c'est ça.
Du type avec les tuyaux à violon qui viendrait tuer le client. Non, ça marche pas comme ça. Les voyous, généralement, ils règlent leurs affaires eux-mêmes. Au pire, ils se les échangent. Tu tues celui que je dois tuer à Marseille, et moi, tu viens à Paris tuer le mien, et puis comme ça, ça brûlera les pistes. Il peut y avoir de ce genre d'accord, mais il n'y a pas de tueur professionnel. Il y a dans une équipe un type qui va être plutôt dévoué à ce genre de tâche parce qu'il aime ça et qu'il est doué, mais ça n'est pas une profession du milieu.
Donc, point d'interrogation.
Point d'interrogation, c'est assez étrange.
Sur ce point-là.
Dans des histoires de mafia où on laisse...
Oui. Non, mais c'était pour briser, tordre le cou, évidemment, à un fantasme qui pouvait se développer sur cette affaire. Bonsoir Nejma Van Egmond.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et auteur du livre Art Média, une histoire du cinéma français aux éditions de l'Observatoire. Excellent livre, je le précise, avec une préface de Dominique Besnéard. Merci beaucoup d'être ce soir, vous également, dans le studio de l'heure du crime. En quelques mots, Nejma Van Egmond, qui est Gérard Lebovici?
Alors, Gérard Lebovici, c'est effectivement, en mars 1984, une personnalité méconnue du grand public, mais extrêmement connue de tous les acteurs, réalisateurs, de tous ceux qui font le cinéma français. Il a créé... 14 ans auparavant, l'agence Art Média, une vingtaine d'années auparavant, l'agence Gérard Lebovici. Il a totalement révolutionné le métier de ce qu'on appelait les impresarios. Il a créé le métier d'agent artistique et fait entrer ce métier dans l'ère moderne. Il tient les rênes du cinéma français. C'est vraiment le patron du cinéma français.
C'est le nabab.
C'est-à-dire que son agence Art Média, au point culminant de l'histoire de l'agence, dans les années 70 et 80, représente à peu près 80% des génériques de films, donc il représente les intérêts.
Il est très puissant, c'est un poids lourd.
C'est l'agent de Belmondo, de Deneuve, de Truffaut, de René, de Weber, de Depardieu, de tout le monde.
Il y a toutes les grosses pointures
du
cinéma.
Absolument.
Encore un petit mot, physiquement, il ressemble à quoi? Parce que ça aussi, c'est important, il y a une légende autour de Lebovici.
Alors, il ressemble à un de ses associés dans la maison d'édition Champ Libre, avait publié une photo de lui à côté d'une photo de Sidney Pollack, c'était assez troublant. Il y a un petit air de famille. C'est un homme assez grand, assez trapu, extrêmement mystérieux, avec toujours un imperméable au col relevé, des pulls un peu baissés, des écharpes. C'est pas du tout quelqu'un qui se met en avant, qui parade. On a très peu de photos de lui, quelques-unes au bras de Deneuve. C'est les seules photos de mondanité. Mais sinon, il est toujours dans l'ombre et il travaille pour mettre en lumière ses talents.
Gérard Lebovici, qui ressemble donc un petit peu à Delon dans Le Samouraï, est loin d'être monsieur tout le monde. C'est une enquête sensible qui démarre. Le ou les tueurs ont agi de façon très professionnelle. Ils n'ont laissé aucune trace. La police va aller à la pêche aux témoignages. Enquête qui s'annonce longue. Gérard Lebovici a été foudroyé de 4 balles dans la nuque. Un tir rapide, le tueur était assis dans sa voiture juste derrière lui. C'est la brigade criminelle qui est chargée des investigations. Son patron, Jean Dufour, supervise la marche de cette enquête, pas comme les autres. Tout se déroule dans un décor pour le moins inhabituel. Un mélange d'intellectuels, de financiers, de grands bourgeois et de visages connus du cinéma. Rien que du beau monde. parking Foch, le lieu de l'assassinat. Les tueurs n'ont pas laissé d'empreinte. Personne n'a vu leur visage. Sur ce coup, force est de constater que les informateurs habituels sont aux abonnés absents. Rien ne remonte d'un éventuel contrat. Les affaires du patron d'Armédia, et notamment ses carnets, agendas, griffonnés d'une écriture illisible, ne livrent pas d'éléments sérieux. Les Bovici avaient, semble-t-il, des concurrents, mais pas d'ennemis qui souhaitaient sa mort. Ils n'avaient jamais évoqué de quelconque menace. 10 ans auparavant, Armédia avait certes fait l'objet d'une tentative de braquage menée par un certain Jean-Charles Villoquet, qui allait devenir l'un des comparses de Jacques Mesrine, mais ce braquage bancal avait tourné court. Ce n'est pas à cause de Villoquet et son braquage foireux que le nom de Mesrine, abattu par la police 5 ans auparavant, figure tout de suite dans l'enquête de la crime. Mais à cause du coup de fil qui a fait sortir les Bovici de son bureau, de cet inconnu qui lui a donné rendez-vous en prétextant appeler de la part de Sabrina Mesrine, la fille du truand. Depuis longtemps, les Bovici avaient une réelle fascination pour Mesrine. Il avait racheté les droits de son autobiographie, L'instinct de mort, et envisagé de monter un film sur la vie de l'ennemi public numéro 1. Il avait pour cela démarché Jean-Paul Belmondo pour tenir le rôle du gangster, mais celui-ci avait décliné. Il avait aussi demandé au chanteur Renaud d'écrire une chanson sur Mesrine. Renaud n'avait pas donné suite. Sabrina Mesrine, qui a alors 23 ans et qui travaille aux éditions Champs Libres, ignore pourquoi son prénom a été prononcé au téléphone, sans doute pour attirer le producteur dans un piège. Cette audition ne donne rien, tout comme celle qui s'enchaîne au 36 quai des Orfèvres, pas moins de 290 interrogatoires. Des collaborateurs d'Armédia, des amis, des gens de cinéma, beaucoup témoignent d'un homme qui voulait toujours voir l'envers du décor, attiré par les truands, les voyous, la face sombre de l'humanité. Nejma Van Egmond, auteur, co-auteur du livre Armédia, une histoire du cinéma français, et ce soir l'une de nos invités dans l'heure du crime. Les truands, les bandits, le danger, le risque, c'est une constante dans la vie de Gérard Lebovici?
Oui, c'est le côté obscur de Gérard Lebovici, qui était une forme de schizophrène professionnel, c'est-à-dire que côté pile, c'était le cinéma, les paillettes, le beau linge, l'agence Armédia qui avait pignon sur rue aux Champs-Élysées, et de l'autre côté, c'était les éditions Champs Libres, qui éditaient beaucoup d'auteurs situationnistes, de radicaux d'extrême gauche, donc il avait effectivement noué une relation très très trouble avec Guy Debord, le représentant des situationniste. Et puis il avait cette admiration sans borne, vous l'avez dit, pour Mesrine, dont il avait racheté les droits de l'instinct de mort et pour lequel il a travaillé à adapter ce livre au cinéma bien avant Thomas Langman. Pendant des années, il a fait plancher La Brome, Modiano, Audiard sur un scénario. Il a fait racheter les droits du livre par Belmondo. Enfin voilà, c'était une idée qui lui tenait à cœur.
Jérôme Pierrat, spécialiste du grand banditisme. Alors, Mesrine, ok, tout le monde le connaît. Le nom, pas besoin de le présenter. Et pourquoi il intéresse autant les enquêteurs? Alors évidemment, il y a l'histoire de cet homme qui s'est présenté au nom de sa fille. Mais en quoi Mesrine vient, qu'est-ce que vient faire Mesrine dans cette histoire?
C'est parce qu'au bout d'un moment, alors, quand il prononce le nom de... Bon, il regarde, et alors effectivement, quand on parle d'assassinat, etc., on voit qu'il y a un truand dans cette histoire. Donc forcément, je pense qu'ils ont plongé d'abord sur cette piste, enfin couru après cette piste. Et puis effectivement, il y avait dans l'entourage de Mesrine, à l'époque, avant sa mort, un garçon avec qui il avait été associé, qui s'appelait Michel Ardouin, dit le porte-avions, qui était une figure de la pègre parisienne et française, un membre éminent du grand banditisme. Et c'était un garçon qui avait... alors je peux le dire parce que j'ai bien connu, parce qu'on a fait un livre ensemble il y a une quinzaine d'années. Bon, il est décédé aujourd'hui, ouais. Mais ce type avait une réputation d'assassin, comme il faut bien le dire, et de se servir en plus d'un 22 long rifle pour abattre ses ennemis ou ses concurrents. Et donc voilà, donc je pense qu'alors ils ont commencé à se dire, et pourquoi ce type en plus qui soupçonnait d'avoir flingué pas mal de types à Paris, donc par association d'idées, ils se sont dit, tiens, mettons-nous sur ce Michel Ardouin qui aurait plu. L'idée des enquêteurs originels, c'était, il y a eu une histoire avec les droits, avec le film, ils auraient spolié, enfin ils n'auraient pas donné à...
En gros, si je vous suis, les Bovici pouvaient blanchir de l'argent, de la pègre.
C'était encore une autre piste.
On va y venir.
La première piste, c'était vraiment, il doit y avoir un conflit d'intérêts autour des droits du livre et des héritiers ou des ex-associés qui viendraient réclamer une part. Tout le monde s'en foutait, hein. Mesrine était un garçon assez solitaire. Il a eu des associés épisodiques, mais jamais de binôme.
Non, pas vraiment.
Voilà. Donc la piste était quand même un petit peu bancale, mais comme il y avait dans l'entourage ce Michel Ardouin qui les intéressait beaucoup puisqu'il était au fait de sa gloire criminelle à l'époque, ils l'ont filoché pendant un an, car voilà, la crime s'était mise un peu sur lui.
Et ça n'a rien donné. Avec, je rajoute à ça, Jérôme Pira, ce petit mot dans la poche, qui est retrouvé dans la poche de Gérard Lebovici, François, rue Vernet, 18h45, on le retrouve dans la poche de son costume. Alors, François.
François Besse. Alors, François Besse, c'est l'homme qui s'était évadé avec lui de la prison de la Santé en 1978. Et puis, voilà, donc, qui était un braqueur bien connu de l'époque, un roi de l'évasion. Mais pas un garçon connu pour des actions sanglantes ou des tempéraments violents.
Non, c'est pas vraiment le genre de François Besse.
Donc ça, plus l'entourage, Ardouin, tout ça les avait emmené dans cette nébuleuse pégriotte, on va dire.
Je comprends bien. Nedja Van Egmond, Gérard Lebovici, homme secret, mais qui cache tous ses secrets, finalement. Homme secret, qui cache ses secrets.
Oui, qui cache ses secrets, qui cloisonne surtout les différents mondes. C'est-à-dire que il y a le cinéma d'un côté, il y a la littérature de l'autre, et les deux ne se rencontrent jamais. Beaucoup des gens avec qui il travaillait dans le cinéma ne savaient même pas qu'il était éditeur. Ce qui est quand même assez troublant quand on en parle aujourd'hui, quoi.
D'autres pistes vont se dessiner, toutes pourraient d'une manière ou d'une autre expliquer la mort du producteur, sauf que toutes souffrent d'une cruelle absence d'indices. Le juge d'instruction Alain Verlaine voit le dossier de la mort de Gérard Lebovici s'épaissir mois après mois, mais sans que celui-ci ne délivre une quelconque amorce de vérité. En fait, les investigations font du surplace. La veuve du producteur, Floriana Lebovici, se désespère de n'avoir aucune réponse à ses questions. 6 ans après le crime, elle demande au grand ami de la famille, l'avocat Georges Kiegemann, nommé par François Mitterrand délégué auprès du ministre de la Justice, de faire avancer le dossier. Georges Kiegemann accepte de rendre ce service et de peser de tout son poids dans cette affaire. Il ne pourra que constater que les pistes sont certes nombreuses, mais toutes figées. L'une d'elles s'intéresse à la vie amoureuse de la victime. Gérard Lebovici avait beaucoup de succès avec les femmes et personne n'ignorait qu'il avait des maîtresses. Curieusement, la dernière en date a été entendue seulement 1 an après l'assassinat. L'une d'elles, Véronique III, un cobra tatoué au poignet, ancienne hôtesse du Brummels, un bar près des Champs-Élysées, avait été retrouvée morte au Yémen en 1977. Son père aurait tenu Lebovici responsable de cette mort. Mais là aussi, l'enquête ne donne rien. Parmi les autres pistes figure un différend commercial qu'aurait eu Gérard Lebovici avec le plus grand producteur de cassettes vidéo du moment, René Château. En jeu, le marché des masters, des bobines qui permettent la production des fameuses cassettes. Marché fructueux qui rapporte des millions et des millions de francs, mais même si un litige opposait les deux hommes, rien ne conduit à un possible règlement de compte, piste classée. Une autre va faire l'objet de beaucoup plus d'attention de la part des enquêteurs, à savoir les liens que Lebovici entretenait avec l'ultra-gauche et la mouvance révolutionnaire, notamment avec l'écrivain Guy Debord, qui aurait joué un rôle de gourou, d'éminence noire, auprès d'un Lebovici qui publiait ses écrits et le finançait, le producteur. Aurait-il trahi une quelconque cause au point de le payer de sa vie ? Question sans réponse, Guy Debord démentira les accusations dans les journaux à coup de procès en diffamation. Nedja Van Egmond, journaliste et co-auteur du livre « Art Média, une histoire du cinéma français », cette piste de l'ultra-gauche, elle va vraiment être fouillée avec attention par les enquêteurs, ils vont s'y attacher beaucoup. Qu'est-ce qu'elle dit cette piste ? Et puis il y a cette ombre, l'ombre de Guy Debord. Alors, pas très connu du grand public, certes, mais c'est un intellectuel à l'époque influent. C'est l'ultra-gauche.
Oui, c'était effectivement un intellectuel influent que Lebovici avait complètement pris sous son aile et pour lequel il jouait les mécènes. Il avait acheté une salle de cinéma pour lui, pour diffuser ses films un peu obscurs devant des fauteuils vides. Financer vraiment l'œuvre révolutionnaire de Debord. Certaines personnes d'Art Média nous ont raconté avoir fait des virements, des comptes personnels de Lebovici sur les comptes de Debord pour lui venir en aide quand il était en déshérence. Et c'était vraiment effectivement un gourou surnommé par Truffaut le Tartuffe. Après, beaucoup de gens qu'on interroge aujourd'hui nous disent quelle raison aurait eu de bord de tuer la poule aux œufs d'or.
C'est la question que j'allais vous poser.
Ça semble peu probable. C'était son plus fidèle, voire son seul soutien, à la fois son soutien de cœur, mais aussi en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, pour beaucoup de gens, cette piste n'est pas fiable. Mais c'est vrai qu'elle était tentante, elle était romanesque et sulfureuse.
Elle est sulfureuse,
bien
évidemment,
sûr.
Tout le monde va s'y attacher.
Bien sûr.
Et les journaux vont en faire leur chou gras, d'ailleurs. Jérôme Pira, spécialiste du grand banditisme, dans les autres pistes qui surgissent là, au fil de l'eau et au fil des années, il y a finalement deux axes. Il y a l'axe financier, des accords financiers avec des associés, ou avec l'histoire des fameuses cassettes avec René Château, le producteur, et puis l'axe amoureux, sentimental, les maîtresses, etc. Qu'est-ce qu'on retient de ces histoires, alors? Si on prend le financier, par exemple.
Le financier... Alors, à l'époque, le cinéma... absorbe un certain nombre de liquidités. En gros, oui, il y a beaucoup de voyous qui, à l'époque, amènent des fonds en liquide. Alors, je ne parle pas de Gérard Lebovici, mais d'autres producteurs qu'on ne citera pas, et qui aident à financer un certain nombre, parce que c'est une formidable blanchisseuse à l'époque. Alors, il n'y a pas Tracfin, il faut quand même se rappeler qu'il y avait beaucoup d'argent liquide
temps,
en circulation à l'époque, donc il y avait moins de justif à fournir quand on investissait. Et les voyous venaient régulièrement, on peut en citer, il y avait un monsieur qui s'appelait François le Grec, François Anastasia, c'est un grand voyou des années 70-80 qui a financé un grand nombre de longs métrages français et qui venait comme ça dans les prods avec son argent en liquide.
Incroyable.
Oui, parce que cet argent était injecté dans la production et ressortait sous forme de parts de copro.
D'accord.
Qui était habillé par des histoires de conseillers, etc. Donc, pendant un moment, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui s'étaient servis de ce tuyau-là pour mettre de l'argent, tout ça aurait débouché sur un conflit d'intérêts avec des gens qui ne vont pas devant un tribunal de commerce pour régler les problèmes.
Voilà. Et concernant l'affaire qui nous occupe ce soir, les Bovici, on ne trouve rien sur cette piste.
Non, et donc en creusant, les enquêteurs ne trouvent pas le début d'un financement occulte ou d'une magouille quelconque. Donc c'est une des pistes qui a été abordée. Comme celle d'ailleurs, on parlait des cassettes vidéo, mais il n'y avait pas que ça, parce qu'au moment, on a parlé de René Château, mais la piste qui était la plus probante à l'époque, c'est parce qu'il y avait eu en plus concomitamment à l'affaire, au moment de son assassinat, un trafic de cassettes pirates démantelées avec 68 personnes arrêtées par la gendarmerie.
D'accord.
Trois semaines, ou je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises, mais à peu près au même moment. Et donc on s'était dit, est-ce que lui aurait pas dénoncé, dénoncer le marché noir des VHS, qui évidemment le spoilait en termes de droit et compagnie, etc. Et on l'aurait fait taire. Enfin voilà, donc il y a eu parmi les pistes crapuleuses financière, on va dire. Il y avait celle-ci.
Nedja Van Egmond, alors la piste sentimentale, il faut en dire un mot quand même. Je disais un homme à femme, c'est vrai que c'est un homme qui avait des maîtresses. Et d'ailleurs, même Georges Kiechmann, qui est l'ami de la famille, qui est avocat, etc., il va s'étonner que finalement les enquêteurs n'aient pas creusé suffisamment cette piste. Il va dire, c'est incroyable, tout le monde savait qu'il avait des maîtresses et personne ne les a interrogées.
C'est-à-dire que Georges Kiechmann, quand il met le nez, faut savoir qu'il était au moment de l'assassinat de Gérard Lebovici, ils étaient fâchés à mort, ils ne se parlaient plus depuis longtemps. Et quand il met le nez à la demande de Floriana, la veuve de Lebovici, dans le dossier, il est totalement vraiment ébahi de voir que, enfin, selon lui, l'instruction a été bâclée à tout un tas d'endroits, et que la piste sentimentale, alors ça ne veut pas dire que les maîtresses ou les amoureuses potentielles de Lebovici auraient pu commanditer un assassinat, mais en tout cas, il est très surpris qu'un certain nombre d'entre elles n'ait pas été entendu ou très tard. Alors, ce n'est pas forcément un motif de meurtre, mais en tout cas, ça l'interpelle, effectivement.
Alors, il y a la piste, évidemment, fortement romanesque de cette Virginia Troy, c'est ça?
Oui, hein, de cet agent
c'est un livre à elle toute seule.
Oui.
On peut dire qu'on n'y croit pas trop, c'est quelque chose qui est assez romanesque.
Oui, c'est assez rocambolesque.
Par contre, pourquoi pas imaginer, finalement, un règlement de compte des plus basiques? Le mari jaloux. Le mari jaloux qui appelle les Lebovici et qui dit après tout « Vous voyez ma femme, moi je ne suis pas d'accord » et puis voilà, il peut tomber sur quelqu'un de violent. Alors évidemment, c'est moins romanesque que
certains
on peut le penser.
Certains l'ont imaginé, mais c'est vrai que ça ne tient pas vraiment la corde, tout comme l'idée d'un suicide mis en scène que certains ont évoqué, que Costa Gavras évoque dans ses mémoires.
Alors, quelle est cette histoire? Alors, détaillez un petit peu.
Alors en fait, Gérard Lebovici était malade, il avait subi plusieurs interventions, il souffrait d'un cancer, certains disent qu'il s'en était, enfin qu'il était sur la voie de la guérison, d'autres qui se savaient condamnés. On n'a jamais vraiment eu la certitude de ça, mais en tout cas, Costa-Gavras écrit noir sur blanc que selon lui, Gérard Lebovici, qui préférait mourir, enfin dignement si on peut dire, mais en tout cas pas affaibli par la maladie, aurait mis en scène sa mort, et plutôt que se suicider, aurait fait croire à un assassinat. Ça semble vraiment très très farfelu quand même.
7 ans après l'assassinat, et alors qu'aucun élément concret n'a surgi, qu'aucun témoignage digne de ce nom n'est apparu, le juge Verlaine referme le dossier. Les recherches n'iront pas plus loin, la justice prononce un non-lieu. Après la mort de son mari, Floriana Lebovici a mené le combat pour savoir ce qui s'était vraiment passé le 5 mars 1984 dans un sous-sol du parking Foch. Rongée par cette histoire, elle est morte 6 ans plus tard, le 19 février 1990, des suites d'un cancer. Celui qui s'était présenté comme le guide spirituel de Gérard Lebovici, Guy Debord, se suicidera 4 ans plus tard en se tirant un coup de carabine dans la bouche. Il avait publié quelques années auparavant un livre intitulé « Considérations sur l'assassinat de Gérard Lebovici », ouvrage qui n'éclaircit pas vraiment les contours de ce crime. Au fil des années, les proches et les possibles témoins ont ainsi disparu. Affaire à ce jour insoluble, trop de pistes, mais pas le moindre indice. Une victime tellement en vue que les policiers n'ont jamais pu exploiter la totalité de son carnet d'adresses et de ses notes. Qui plus est, jamais affaire n'aura suscité aussi peu de bavardage et de confidences de la part du milieu. Aucun nom n'émergera pour désigner le tueur de sang-froid du parking. 37 ans après, le dossier Lebovici apparaît ainsi comme l'un des plus célèbres cold cases français. Seul un improbable élément nouveau, un témoignage, un testament, pourrait relancer les investigations. Au cimetière, la tombe de Gérard Lebovici porte notamment ces mots. Quel ami pour ses amis, quel ennemi pour l'ennemi. Peu après l'assassinat, un policier avait indiqué au Nouvel Observateur « Que voulez-vous ? À force de vivre dans le secret, on meurt dans le noir. » Nejma Van Egmond, co-auteur du livre « Art Média, une histoire du cinéma français » aux éditions de l'Observatoire. Est-ce que Gérard Lebovici a-t-il finalement trop joué avec l'ombre et l'a payé au prix le plus fort ?
Je sais pas s'il a trop joué avec l'ombre. Je pense qu'il n'a pas forcé sa nature, c'est-à-dire que contrairement à tous les gens du milieu du cinéma de l'époque qui vivaient de paillettes, de projecteurs, de cigares et de berlines rutilantes, lui c'était un enfant, un fils de déporté, né dans un milieu modeste, qui n'a jamais dépensé des fortunes ni en voiture ni en costume. Donc je pense qu'il a vécu vraiment conformément à ce qu'il était, encore une fois, sans jamais forcer sa nature. Et c'est ce que reconnaissent encore aujourd'hui tous ceux qui ont travaillé avec lui, notamment Jean-Louis Lévy, son plus proche collaborateur, qui considère qu'il est resté fidèle à ses convictions jusqu'à la fin.
Le frère d'Yves Montand.
Neveu d'Yves Montand.
Le neveu, pardon. Neveu d'Yves Montand. Jérôme Pira, spécialiste du grand banditisme, est notre invité ce soir également dans l'heure du crime. Aujourd'hui, cette enquête, elle serait totalement différente. Alors, c'est vrai que c'est facile de refaire l'histoire après coup. On est d'accord. On est d'accord, mais à l'époque, il faut le signaler quand même. Pas d'ADN.
Alors, pas d'ADN, pas de vidéosurveillance dans le parking, donc aucune trace, parce que. Aujourd'hui, je pense que plus personne ne laisserait les douilles en place avec le risque de trouver un ADN dessus. Pas de téléphonie, pas de bornage. Enfin, il est impossible de retracer ce qu'il a fait, enfin quel trajet, etc., etc. Donc oui, la faute. Là, pour le coup, oui. Aujourd'hui, ça serait plus du tout les mêmes investigations criminelles. Les tueurs prendraient peut-être aussi plus de précautions, il y aurait peut-être moins de mise en scène. Oui,
oui c'est vrai. Et en tout cas, la téléphonie aurait peut-être apporté des éléments plus concluants. Et comment expliquer tout de même, Jérôme Pira, parce que c'est une question centrale qui me taraude, que l'on n'ait rien trouvé. Non, alors, la crime, c'est pas n'importe quoi.
C'est quand même l'élite de la PJ parisienne. Alors, il y a eu quand même
ce qui a été un peu dit comme ça en filigrane. C'est-à-dire que, vu la personnalité du monsieur, son carnet d'adresse, etc., je pense qu'il y a eu une petite retenue de la part des policiers en se disant dans quoi on va mettre les pieds, est-ce qu'on va pas soulever des trucs qui vont
nous
tomber
dessus. Ah, vous pensez ça, il y a eu
une... Ce qui s'est dit quand même à l'époque.
D'appréhension.
Depuis, c'est ce qui se dit, même chez les anciens policiers, etc. C'est-à-dire que il y avait, sans que ce soit vraiment... ils ont reçu des consignes, mais tout le monde a fait, je pense, un peu d'autocensure en se disant, on va peut-être pas... Il y a cette anecdote-là dont vous parliez tout à l'heure avec les maîtresses où Kejman avait dit, mais ils ont mis un an à connaître l'existence de la maîtresse, il aurait suffi de demander à sa femme, alors on aurait dit immédiatement.
Qui est au courant.
Non, mais ça donne bien... Voilà, donc il y avait des questions qu'on n'osait pas poser parce que c'était un peu gênant, parce que voilà, le flic de base se disait, ça me retombait dessus, donc il y a ça, il y a les... considération technique dont on a parlé avant, mais effectivement, il n'y a jamais eu même le début d'une petite info qui aurait traîné.
Et puis il y a autre chose, Jérôme Perra, vous qui connaissez parfaitement la pègre, le milieu, ce monde interlope et obscur, comment expliquer qu'il n'y ait pas de remontée d'informations?
Normalement, chez les voyous,
voilà, les flics, ils travaillent beaucoup.
Il y a au moins des rumeurs. Il est difficile, les flics ont du mal, enfin, la police a du mal à judiciariser.
Pardon, désolé, Quels Orfèvres, 36.
Voilà, c'est quoi, à force de parler d'histoire de voyous,
les policiers.
Non mais effectivement, d'habitude il y a toujours au moins des espèces de bribes comme ça, de rumeurs qui sont difficiles à judiciariser, mais au moins l'enquête est résolue policièrement, comme on dit, faute d'être résolue par la justice. Là effectivement, jamais rien n'a filtré, même chez les voyous, alors que je fréquente professionnellement depuis pas mal d'années, personne n'a aucun début de piste concernant ce truc. Donc c'est assez étonnant. Alors, soit c'est un champion de tir qui n'a rien à voir avec le milieu et qui était là au rendez-vous, mais sinon voilà, sinon celui qui l'a fait était peut-être encore un peu jeune, c'est bien gardé, c'est bien un des seuls qui aurait gardé sa langue dans sa poche, dans ce milieu, pendant toutes ces années. Et alors, je ne veux pas faire le Nostradamus de la résolution de l'enquête, mais si le type raisonnablement devait avoir 30 ou 40 ans, il en a aujourd'hui 60, 70, il est encore un peu trop tôt. Moi, je pense assez optimiste que c'est une histoire dont on aura l'épilogue dans les années à venir.
Ah, ça c'est intéressant.
Je pense que généralement ça sort, hein, toutes les grandes énigmes judiciaires, le juge Renault, etc., etc. On connaît, ça n'a pas été judiciarisé, mais on connaît les vraies raisons, ouais, avec les noms des assassins.
Donc, vous pensez que ça va sortir, vous, hein?
Je pense que ça finira par sortir.
Que ça finira par sortir. Nedja Van Egmond, vous avez travaillé évidemment sur ce livre Armédia. Alors évidemment, vous ne parlez pas que de la mort de Lebovici. Ça fait partie du livre et de l'histoire d'Armédia. Qu'est-ce que vous avez pu retenir comme témoignage concernant cette mort? Qu'en pensent vos interlocuteurs? Eux, ils disent aussi, ça va sortir, on saura un jour.
Non, je pense que beaucoup ont fait, hélas, leur deuil de la vérité. Je pense aussi que beaucoup, dans le milieu du cinéma, ont mis ça sous un coin de, je sais pas, derrière un rideau, sous un tapis, sous un oreiller. C'est quelque chose qui est encore très douloureux et dont les gens vous parlent assez peu facilement, finalement. Donc, à mon avis, il reste à écrire un grand scénario et le grand film de l'histoire de Lebovici, qui est quand même plus formidable que n'importe quel scénario de fiction, à mon avis.
Merci beaucoup Nedja Van Egmond et Jérôme Perra d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'assassinat de Gérard Lebovici, 37 ans d'énigme autour de la mort d'un homme qui aimait et cultivait le secret. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.